Histoire de Gil Blas de Santillane, livre 11e, chapitre 1er. De la plus grande joie que Gil Blas ait jamais sentie, et du triste accident qui la troubla, des changements qui arrivèrent à la cour et qui furent cause que Santillane y retourna. J'ai déjà dit qu'Antonia et Béatrix s'accordaient ensemble parfaitement bien, l'une étant accoutumée à vivre en soubrette soumise et l'autre s'accoutumant volontiers à faire la maîtresse. Nous étions, Scipion et moi, des maris trop galants et trop chéris de nos femmes pour n'avoir pas bientôt la satisfaction d'être pères. Elles devinrent enceintes presque en même temps. Béatrix accoucha la première, mit au monde une fille, et peu de jours après, Antonia nous combla tous de joie en me donnant un fils. Ravi d'un si heureux événement, j'envoyai mon secrétaire à Valence en porter la nouvelle au gouverneur, qui vint à Lyrias avec Séraphine et la marquise de Piego tenir les enfants sur les fonds, se faisant un plaisir d'ajouter ce témoignage d'affection à tous ceux que j'avais déjà reçus de lui. Mon fils, qui eut pour parrain ce seigneur et pour marraine la marquise, fut nommé Alphonse, et madame la gouvernante, voulant que j'eusse l'honneur d'être doublement son compère, tint avec moi la fille de Scipion, à laquelle nous donnâmes le nom de Séraphine. La naissance de mon fils ne réjouit pas seulement les personnes du château. Les habitants de Lyrias la célébrèrent aussi par des fêtes, qui firent connaître que tout le hameau prenait part au plaisir de son seigneur. Mais, hélas, nos réjouissances ne furent pas de longue durée. Ou, pour mieux dire, elles se convertirent tout à coup en gémissements, en plaintes, en lamentations, par un événement que plus de 20 années n'ont pu me faire oublier et qui sera toujours présent à ma pensée. Mon fils mourut, et sa mère, quoiqu'elle fût heureusement accouchée de lui, le suivit de près. Une fièvre violente emporta ma chère épouse, après 14 mois de mariage. Que le lecteur conçoive, s'il est possible, la douleur dont je fus saisie. Je tombai dans un accablement stupide. À force de sentir la perte que je faisais, j'y paraissais comme insensible. Je fus 5 ou 6 jours dans cet état. Je ne voulais prendre aucune nourriture. Et je crois que, sans Scipion, je me serais laissé mourir de faim, ou que la tête m'aurait tourné. Mais cet adroit secrétaire sut tromper ma douleur en s'y conformant. Il trouvait le secret de me faire avaler des bouillons en me les présentant d'un air si mortifié qu'il semblait me les donner moins pour conserver ma vie que pour nourrir mon affliction. Cet affectionné serviteur écrivit à Don Alphonse pour l'informer du malheur qui m'était arrivé et de la situation pitoyable où je me trouvais. Ce seigneur, tendre et compatissant, cet ami généreux, se rendit bientôt à Lyrias. Je ne puis sans m'attendrir rappeler le moment où il s'offrit à mes yeux. « Mon cher Santillane, me dit-il en m'embrassant, je ne viens point ici pour vous consoler, je viens pleurer avec vous, Antonia, comme vous pleureriez avec moi, Séraphine, si la Parque me l'eût ravie. » Effectivement, il répandit des larmes, et il confondit ses soupirs avec les miens. Tout accablé que j'étais de ma tristesse, je ne laissais pas de ressentir vivement les bontés de ce seigneur. Don Alphonse eut avec Scipion un long entretien sur ce qu'il y avait à faire pour vaincre ma douleur. Ils jugèrent qu'il fallait pour quelque temps m'éloigner de Lyrias, où tout me retraçait sans cesse l'image d'Antonia. Sur quoi, le fils de Don César me proposa de m'emmener à Valence, et mon secrétaire appuya si bien la proposition que je l'acceptai. Je laissai Scipion et sa femme au château, dont le séjour véritablement ne servait qu'à irriter mes ennuis, et je partis avec le gouverneur. Lorsque je fus à Valence, Don César et sa belle-fille n'épargnèrent rien pour faire diversion à mon chagrin. Ils mirent tour à tour en usage les amusements les plus propres à me dissiper. Mais, malgré tous leurs soins, je demeurai plongé dans une mélancolie dont ils ne purent me tirer. Il ne tenait pas non plus à Scipion que je ne reprisse ma tranquillité. Il venait souvent de Lyrias à Valence pour savoir de mes nouvelles. Il s'en retournait d'autant plus triste ou d'autant plus gai qu'il me voyait plus ou moins de disposition à me consoler. Je ne faisais pas en lui cette remarque sans plaisir. Je lui tenais compte des mouvements d'amitié qu'il laissait éclater, et je m'applaudissais d'avoir un domestique si attaché à moi. Il entra un matin dans ma chambre. « Monsieur, me dit-il d'un air fort agité, il se répand dans la ville un bruit qui intéresse toute la monarchie. On dit que Philippe III ne vit plus et que le prince, son fils, est sur le trône. On ajoute à cela, poursuivit-il, que le cardinal duc de Lerme a perdu son poste, qu'il lui est même défendu de paraître à la cour, et que Don Gaspard de Guzman, comte d'Olivares, est présentement premier ministre. Je me sentis un peu ému de cette nouvelle, sans savoir pourquoi. Scipion s'en aperçut et me demanda si je ne prenais aucune part à ce grand changement. « Eh, quelle part veux-tu que j'y prenne ? » lui répondis-je. « Mon enfant, j'ai quitté la cour. Tous les changements qui peuvent y arriver me doivent être indifférents. » « Pour un homme de votre âge, reprit le fils de la Coscolina, vous êtes bien détaché du monde. À votre place, j'aurais un désir curieux. »«
Quel désir ? » interrompis-je.
« Ma foi, reprit-il, j'irai à Madrid montrer mon visage au jeune monarque pour voir s'il me remettrait. C'est un plaisir que je me donnerai. »
« Je t'entends, lui dis-je. Tu voudrais que je retournasse à la cour pour y tenter de nouveau la fortune, ou plutôt pour y redevenir un avare et un ambitieux.
Et pourquoi vos mœurs s'y corromperaient-elles encore ? » me repartit Scipion. « Ayez plus de confiance que vous n'en avez en votre vertu. Je vous réponds de vous-même. Les saines réflexions que votre disgrâce vous a fait faire sur la cour ne vous permettent point d'en redouter les dangers. Rembarquez-vous hardiment sur une mer dont vous connaissez tous les écueils. »«
Tais-toi, flatteur ! » m'écriai-je en souriant. « Es-tu là de me voir mener une vie tranquille ? Je croyais que mon repos t'était plus cher. »
Dans cet endroit de notre conversation, Don César et son fils arrivèrent. Ils me confirmèrent la nouvelle de la mort du roi, ainsi que le malheur du duc de Lerme. Ils m'apprirent de plus que ce ministre, ayant fait demander la permission de se retirer à Rome, n'avait pu l'obtenir et qu'il lui était ordonné de se rendre à son marquisat de Denia. Ensuite, comme s'ils eussent agi de concert avec mon secrétaire, ils me conseillèrent d'aller à Madrid me présenter aux yeux du nouveau roi, puisque j'en étais connu et que je lui avais même rendu des services que les grands récompensent assez volontiers.
« Pour moi, dit Don Alphonse, je ne doute pas qu'il ne les reconnaisse. Philippe IV doit payer les dettes du prince d'Espagne.
« J'ai le même pressentiment, dit Don César, et je regarde le voyage de Santillane à la cour comme une occasion pour lui de parvenir aux grands emplois.
« En vérité, messeigneurs, m'écriai-je, vous ne pensez pas bien à ce que vous dites. Il semble à vous entendre l'un et l'autre que je n'ai qu'à me rendre à Madrid pour avoir la clé d'or, ou quelque gouvernement. Vous êtes dans l'erreur. Je suis au contraire bien persuadé que le roi ne ferait aucune attention à ma figure si je m'offrais à ses regards. »
J'en ferai, si vous le souhaitez, l'épreuve pour vous désabuser. Les seigneurs de Leyva me prirent au mot, et je ne pus me défendre de leur promettre que je partirais incessamment pour Madrid. Sitôt que mon secrétaire me vit déterminé à faire ce voyage, il en ressentit une joie immodérée. Il s'imaginait que je ne paraîtrais pas plus tôt devant le nouveau monarque, que ce prince me démêlerait dans la foule et m'accablerait d'honneurs et de biens. Là-dessus, se berçant des plus brillantes chimères, il m'élevait aux premières charges de l'État et se poussait à la faveur de mon élévation. Je me disposais donc à retourner à la cour, non dans la vue d'y sacrifier encore à la fortune, mais pour contenter Don César et son fils, qui avaient dans l'esprit que je posséderais bientôt les bonnes grâces du souverain. Il est vrai que je me sentais au fond de l'âme quelque envie d'éprouver si ce jeune prince me reconnaîtrait. Entraîné par ce mouvement curieux, sans espérance et sans dessein de tirer quelque avantage du nouveau règne, je pris le chemin de Madrid avec Scipion, abandonnant le soin de mon château à Béatrix, qui était une très bonne ménagère. Chapitre 2. Gil Blas se rend à Madrid
Il paraît à la cour, le roi le reconnaît et le recommande à son premier ministre, suite de cette recommandation. Nous nous rendîmes à Madrid en moins de 8 jours, Don Alphonse nous ayant donné 2 de ses meilleurs chevaux pour faire plus de diligence. Nous allâmes descendre à un hôtel garni où j'avais déjà logé, chez Vincent Forero, mon ancien hôte, qui fut bien aise de me revoir. Comme c'était un homme qui se piquait de savoir tout ce qui se passait tant à la cour que dans la ville, je lui demandai ce qu'il y avait de nouveau.
« Bien des choses, me répondit-il. Depuis la mort de Philippe III, les amis et les partisans du cardinal duc de Lerme se sont bien remués pour maintenir son éminence dans le ministère, mais leurs efforts ont été vains. Le comte d'Olivares l'a remporté sur eux. On prétend que l'Espagne ne perd point au change et que ce nouveau premier ministre a le génie d'une si vaste étendue qu'il serait capable de gouverner le monde entier. »
Dieu le veuille. Ce qu'il y a de certain, continua-t-il, c'est que le peuple a conçu la plus haute opinion de sa capacité. Nous verrons dans la suite si le duc de Lerme est bien ou mal remplacé. Forero, s'étant mis en train de parler, me fit un détail de tous les changements qui s'étaient faits à la cour depuis que le comte d'Olivares tenait le gouvernail du vaisseau de la monarchie. 2 jours après mon arrivée à Madrid, j'allai chez le roi l'après-dîner et je me mis sur son passage comme il entrait dans son cabinet. Il ne me regarda point. Je retournai le lendemain au même endroit et je ne fus pas plus heureux. Le surlendemain, il jeta sur moi les yeux en passant, mais il ne parut pas faire la moindre attention à ma personne. Là-dessus, je pris mon parti. « Tu vois, » dis-je à Scipion qui m'accompagnait, que le roi ne me reconnaît point, ou que s'il me remet, il ne se soucie guère de renouveler connaissance avec moi. Je crois que nous ne ferons point mal de reprendre le chemin de Valence.
N'allons pas si vite, monsieur, me répondit mon secrétaire. Vous savez mieux que moi qu'on ne réussit à la cour que par la patience. Ne vous lassez pas de vous montrer au prince. À force de vous offrir à ses regards, vous l'obligerez à vous considérer plus attentivement et à se rappeler les traits de son agent auprès de la belle Catalina.
Afin que Scipion n'eût rien à me reprocher, j'eus la complaisance de continuer le même manège pendant 3 semaines. Et un jour, enfin, il arriva que le monarque, frappé de ma vue, me fit appeler. J'entrai dans son cabinet, non sans être troublé de me trouver tête à tête avec mon roi.
« Qui êtes-vous ? » me dit-il. « Vos traits ne me sont pas inconnus. Où vous ai-je vu ?»«
Sire, lui répondis-je en tremblant, j'ai eu l'honneur de conduire une nuit votre majesté avec le comte de Lemos chez... »«
Ah, je m'en souviens, » interrompit le prince. « Vous étiez secrétaire du duc de Lerme. » Et si je ne me trompe, Santillane est votre nom. Je n'ai pas oublié que dans cette occasion vous me servîtes avec beaucoup de zèle, et que vous fûtes assez mal payé de vos peines. N'avez-vous pas été en prison pour cette aventure ?
Oui, sire, lui répartis-je, j'ai été 6 mois à la tour de Ségovie, mais vous avez eu la bonté de m'en faire sortir.
Cela, reprit-il, ne m'acquitte point envers Santillane. Il ne me suffit pas de l'avoir fait remettre en liberté. Je dois lui tenir compte des maux qu'il a souffert pour l'amour de moi. »
Comme le prince achevait ces paroles, le comte d'Olivares entra dans le cabinet. Tout fait ombrage au favori. Il fut étonné de voir là un inconnu, et le roi redoubla sa surprise en lui disant « Comte, je mets ce jeune homme entre vos mains. Occupez-le. Je vous charge du soin de l'avancer. » Le ministre affecta de recevoir cet ordre d'un air gracieux en me considérant depuis les pieds jusqu'à la tête et fort en peine de savoir qui j'étais. « Allez, mon ami, » ajouta le monarque en m'adressant la parole et en me faisant signe de me retirer. « Le comte ne manquera pas de vous employer utilement pour mon service et pour vos intérêts. » Je sortis aussitôt du cabinet et rejoignit le fils de la Coscolina, qui, très impatient d'apprendre ce que le roi m'avait dit, était dans une agitation inconcevable. Mais, remarquant sur mon visage un air de satisfaction, « Si j'en crois mes yeux, me dit-il, au lieu de retourner à Valence, nous avons bien la mine de demeurer à la cour. »
« Cela pourrait bien être, lui répondis-je.
En même temps, je le ravis en lui racontant mot pour mot le petit entretien que je venais d'avoir avec le monarque.
« Mon cher maître, me dit alors Scipion dans l'excès de sa joie, prendrez-vous une autre fois de mes almanachs ? Avouez que vous ne me savez pas à présent mauvais gré de vous avoir exhorté à faire le voyage de Madrid. Je vous vois déjà dans un poste éminent. Vous deviendrez le Calderon du comte d'Olivares. »
C'est ce que je ne souhaite pas du tout, interrompis-je. Cette place est environnée de trop de précipices pour exciter mon envie. Je voudrais un bon emploi où je n'eusse aucune occasion de faire des injustices ni un honteux trafic des bienfaits du prince. Après l'usage que j'ai fait de ma faveur passée, je ne puis être assez en garde contre l'avarice et contre l'ambition.
« Allez, monsieur, reprit mon secrétaire, le ministre vous donnera quelques bons postes que vous pourrez remplir sans cesser d'être honnête homme. »
Plus pressé par Scipion que par ma curiosité, je me rendis le jour suivant chez le comte d'Olivares avant le lever de l'aurore, ayant appris que tous les matins, soit en été, soit en hiver, il écoutait à la clarté des bougies tous ceux qui avaient à lui parler. Je me mis modestement dans un coin de la salle, et de là j'observai bien le comte quand il parut, car j'avais fait peu d'attention à lui dans le cabinet du roi. Je vis un homme d'une taille au-dessus de la médiocre et qui pouvait passer pour gros dans un pays où il est rare de voir des personnes qui ne soient pas maigres. Il avait les épaules si élevées que je le crus bossu, quoiqu'il ne le fût pas. Sa tête, qui était d'une grosseur excessive, lui tombait sur la poitrine. Ses cheveux étaient noirs et plats, son visage long, son teint olivâtre, sa bouche enfoncée et son menton pointu et fort relevé. Tout cela ensemble ne faisait pas un beau seigneur. Néanmoins, comme je le croyais dans une disposition obligeante pour moi, je le regardais avec indulgence. Je le trouvais agréable. Il est vrai qu'il recevait tout le monde d'un air affable et débonnaire, et qu'il prenait gracieusement les placés qu'on lui présentait, ce qui semblait lui tenir lieu de bonne mine. Cependant, lorsqu'à mon tour je m'avançai pour le saluer et me faire connaître, il me lança un regard rude et menaçant. Puis, me tournant le dos sans daigner m'entendre, il rentra dans son cabinet. Je trouvai alors ce seigneur encore plus laid qu'il n'était naturellement. Je sortis de la salle fort étourdi d'un accueil si farouche et ne sachant ce que j'en devais penser. Ayant rejoint Scipion qui m'attendait à la porte, « Sais-tu bien, lui dis-je, la réception qu'on m'a faite ?»« Non, me répondit-il, mais elle n'est pas difficile à deviner. Le ministre, prompt à se conformer aux volontés du prince, vous aura proposé sans doute un emploi considérable. »
« C'est ce qui te trompe, lui répliquai-je. En même temps que je lui appris de quelle façon j'avais été reçu, il m'écouta fort attentivement et me dit « Vous m'étonnez. Il faut que le comte ne vous ait pas remis ou qu'il vous ait pris pour un autre. Je vous conseille de le revoir. Je ne doute pas qu'il ne vous fasse meilleure mine. »
Je suivis le conseil de mon secrétaire. Je me montrai pour la seconde fois devant le ministre qui, me traitant encore plus mal que la première, fronça le sourcil en m'envisageant comme si ma vue lui eût fait de la peine. Puis il détourna de moi ses regards et se retira sans me dire mot. Je fus piqué de ce procédé jusqu'au vif et tenté de partir sur le champ pour retourner à Valence. Mais c'est à quoi Scipion ne manqua pas de s'opposer, ne pouvant se résoudre à renoncer aux espérances qu'il avait conçues.
« Ne vois-tu pas, lui dis-je, que le comte veut m'écarter de la cour? Le monarque lui a témoigné de la bonne volonté pour moi. Cela ne suffit-il pas pour m'attirer l'aversion de son favori? C'est donc, mon enfant, c'est donc de bonne grâce, au pouvoir d'un ennemi si redoutable.
« Monsieur, répondit-il en colère contre le comte d'Olivares, « je n'abandonnerai pas si facilement le terrain. Je voudrais même avoir raison d'un accueil si offensant. J'irai me plaindre au roi du peu de cas que le ministre fait de sa recommandation. » Mauvais conseil, lui dis-je, mon ami. Si je faisais cette démarche imprudente, je ne tarderais guère à m'en repentir. Je ne sais même pas si je ne cours pas quelque péril à m'arrêter dans cette ville. Mon secrétaire, à ce discours, rentra en lui-même, et considérant qu'en effet nous avions affaire à un homme qui pouvait nous faire revoir Ségovie, il partagea ma crainte. Il ne combattit plus l'envie que j'avais de quitter Madrid, d'où je résolus de m'éloigner dès le lendemain. Chapitre 3. De ce qui empêcha Gil Blas d'exécuter la résolution où il était d'abandonner la cour, et du service important que Joseph Navarro lui rendit. En m'en retournant à mon hôtel garni, je rencontrai Joseph Navarro, chef d'office de Don Balthazar de Zuniga, et mon ancien ami. Je doutais quelques moments si je ne ferais pas semblant de ne le pas voir, ou si je l'aborderais pour lui demander pardon d'avoir si mal agi avec lui. Je m'arrêtai à ce dernier parti. Je saluai Navarro, et l'abordant fort poliment, « Me reconnaissez-vous ? » lui dis-je. « Et serez-vous encore assez bon pour vouloir parler à un misérable qui a payé d'ingratitude l'amitié que vous aviez pour lui ?»« Vous avouez donc, » me répondit-il, « que vous n'en avez pas trop bien usé avec moi. »« Oui, » lui repartis-je, « et vous êtes en droit de m'accabler de reproches. Je le mérite, si toutefois je n'ai pas expié mon crime par les remords qui l'ont suivi. » « Puisque vous vous êtes repenti de votre faute, » reprit Navarro en m'embrassant, « je ne dois plus m'en ressouvenir. » De mon côté, je pressai Joseph entre mes bras, et tous deux nous reprîmes l'un pour l'autre nos premiers sentiments. Il avait appris mon emprisonnement et la déroute de mes affaires, mais il ignorait tout le reste. Je l'en informai. Je lui racontai jusqu'à la conversation que j'avais eue avec le roi, et je ne lui cachais pas la mauvaise réception que le ministre venait de me faire, non plus que le dessein où j'étais de me retirer dans ma solitude. « Gardez-vous bien de vous en aller, » me dit-il, « puisque le monarque a témoigné de l'amitié pour vous, il faut bien que cela vous serve à quelque chose. Entre nous, le comte d'Olivares a l'esprit un peu fantasque et singulier. C'est un seigneur plein de caprices. » Quelquefois, comme dans cette occasion, il agit d'une manière qui révolte, et lui seul a la clé de ses actions hétéroclites. Au reste, quelque raison qu'il ait de vous avoir mal reçu, tenez ici pied à boule. Il n'empêchera pas que vous ne profitiez des bontés du prince, c'est de quoi je puis vous assurer. J'en dirai deux mots ce soir au seigneur Don Balthazar de Zuniga, mon maître, qui est oncle du comte d'Olivares, et qui partage avec lui les soins du gouvernement. Navarro, m'ayant ainsi parlé, me demanda où je demeurais, et là-dessus nous nous séparâmes. Je ne fus pas longtemps sans le revoir. Il vint le jour suivant me retrouver. « Seigneur de Santillane, me dit-il, vous avez un protecteur. Mon maître veut vous prêter son appui. Sur le bien que je lui ai dit de votre seigneurie, il m'a promis de parler pour vous au comte d'Olivares, son neveu. Je ne doute pas qu'il ne le prévienne en votre faveur, et j'ose vous dire que vous pouvez compter sur cela. » Mon ami Navarro, ne voulant pas me servir à demi, me présenta deux jours après à Don Balthazar, qui me dit d'un air gracieux « Seigneur de Santillane, votre ami Joseph m'a fait votre éloge dans des termes qui m'ont mis dans vos intérêts. » Je fis une profonde révérence au seigneur de Zuniga et lui répondis que je sentirais vivement toute ma vie l'obligation que j'avais à Navarro de m'avoir procuré la protection d'un ministre qu'on appelait, à juste titre, le flambeau du conseil. Don Balthazar, à cette réponse flatteuse, me frappa sur l'épaule en riant et reprit de cette sorte « Vous pouvez dès demain retourner chez le comte d'Olivares, vous serez plus content de lui. » Je reparus donc, pour la troisième fois, devant le premier ministre, qui, m'ayant démêlé dans la foule, jeta sur moi un regard accompagné d'un sourire dont je tirai bon augure. « Cela va bien, » dis-je en moi-même. « L'oncle a fait entendre raison au neveu. » Je ne m'attendis plus qu'à un accueil favorable, et mon attente fut remplie. Le comte, après avoir donné audience à tout le monde, me fit passer dans son cabinet, où il me dit d'un air familier « Ami Santillane, pardonne-moi l'embarras où je t'ai mis pour me divertir. Je me suis fait un plaisir de t'inquiéter pour éprouver ta prudence et voir ce que tu ferais dans ta mauvaise humeur. Je ne doute pas que tu te sois imaginé que tu me déplaisais. Mais au contraire, mon enfant, je t'avouerai que ta personne me revient, on ne peut pas davantage. Oui, Santillane, tu me plais. Quand le roi mon maître ne m'aurait pas ordonné de prendre soin de ta fortune, je le ferai par ma propre inclination. D'ailleurs, Don Balthazar de Zuniga, mon oncle, à qui je ne puis rien refuser, m'a prié de te regarder comme un homme pour lequel il s'intéresse. Il n'en faut pas davantage pour me déterminer à t'attacher à moi. » Ce début fit une si vive impression sur mes sens qu'ils en furent troublés. Je me prosternai aux pieds du ministre, qui, m'ayant dit de me relever, poursuivit de cette manière. « Reviens ici cet après-dîner et demande mon intendant. Il t'apprendra les ordres dont je l'aurai chargé. » À ces mots, son Excellence sortit de son cabinet pour aller entendre la messe, ce qu'elle avait coutume de faire tous les jours après avoir donné audience. Ensuite, elle se rendait au lever du roi. Chapitre 4. Gil Blas se fait aimer du comte d'Olivares. Je ne manquai pas de retourner l'après-dîner chez le premier ministre et de demander son intendant, qui s'appelait Don Raymond Caporis. Je ne lui eus pas sitôt décliné mon nom que, me saluant avec des marques de considération, « Seigneur, me dit-il, suivez-moi, s'il vous plaît, je vais vous conduire à l'appartement qui vous est destiné dans cet hôtel. » Après avoir dit ces paroles, il me mena par un petit escalier à une enfilade de 5 à 6 pièces de plein pied qui composait le second étage d'une aile du logis et qui était assez modestement meublée. « Vous voyez, reprit-il, le logement que monseigneur vous donne, et vous y aurez une table de 6 couverts entretenue à ses dépens. Vous serez servi par ses propres domestiques. Il y aura toujours un carrosse à vos ordres. Ce n'est pas tout, ajouta-t-il. Son Excellence m'a fortement recommandé d'avoir pour vous les mêmes attentions que si vous étiez de la maison de Guzman. » Que diable signifie tout ceci? Dis-je en moi-même. Comment dois-je prendre ces distinctions? N'y aurait-il point de la malice là-dedans? Et ne serait-ce pas encore pour se divertir que le ministre me ferait un traitement si honorable? C'est ce que je suis tenté de croire. Car enfin, convient-il au ministre de la monarchie d'Espagne d'en user de cette sorte avec moi? Pendant que j'étais dans cette incertitude, flottant entre la crainte et l'espérance, un page vint m'avertir que le comte me demandait. Je me rendis dans le moment auprès de monseigneur, qui était tout seul dans son cabinet. « Eh bien, Santillane, me dit-il, es-tu satisfait de ton appartement et des ordres que j'ai donnés à Don Raymond ?»« Les bontés de votre Excellence, lui répondis-je, me paraissent excessives, et je ne m'y prête qu'en tremblant. »« Pourquoi donc ? » répliqua-t-il. Puis-je faire trop d'honneur à un homme que le roi m'a confié et dont il veut que je prenne soin? Non, sans doute. Je ne fais que mon devoir en te traitant honorablement. Ne t'étonne donc plus de ce que je fais pour toi et compte qu'une fortune brillante et solide ne saurait échapper si tu m'es aussi attaché que tu l'étais au duc de Lerme. Mais à propos de ce seigneur, poursuivit-il, on dit que tu vivais familièrement avec lui. Je suis curieux de savoir comment vous fîtes tous deux connaissance et quel emploi ce ministre te fit exercer. Ne me déguise rien. J'exige de toi un récit sincère. » Je me souvins alors de l'embarras où je m'étais trouvé avec le duc de Lerme en pareil cas et de quelle façon je m'en étais tiré, ce que je pratiquais encore fort heureusement, c'est-à-dire que, dans ma narration, j'adoucis les endroits rudes et passais légèrement sur les choses qui me faisaient peu d'honneur. Je ménageais aussi le duc de Lerme, quoiqu'en ne l'épargnant point du tout, j'eusse fait peut-être plus de plaisir à mon auditeur. Pour Don Rodrigue de Calderon, je ne lui fis grâce de rien. Je détaillai tous les beaux coups que je savais qu'il avait faits dans le trafic des commanderies, des bénéfices et des gouvernements. « Ce que tu m'apprends de Calderon, interrompit le ministre, et conforme à certains mémoires qui m'ont été présentés contre lui et qui contiennent des chefs d'accusation encore plus importants. On va bientôt lui faire son procès. Et si tu souhaites qu'il succombe dans cette affaire, je crois que tes vœux seront satisfaits.
« Je ne désire point sa mort, lui dis-je, quoiqu'il n'ait point tenu à lui que je n'ai trouvé la mienne dans la tour de Ségovie, où il a été cause que j'ai fait un assez long séjour. »«
Comment ? » reprit son Excellence avec étonnement. « C'est Don Rodrigue qui a causé ta prison ? Voilà ce que j'ignorais. »
Don Balthazar, à qui Navarro a raconté ton histoire, m'a bien dit que le feu roi te fit emprisonner, pour te punir d'avoir mené la nuit le prince d'Espagne dans un lieu suspect. Mais je n'en sais pas davantage, et je ne puis deviner quel rôle Calderon a joué dans cette pièce.
« Le rôle d'un amant qui se venge d'un outrage reçu, » lui répondis-je. En même temps, je lui fis un détail de l'aventure qu'il trouva si divertissante que, tout grave qu'il était, il ne put s'empêcher d'en rire, ou plutôt d'en pleurer de plaisir. Catalina, tantôt nièce et tantôt petite fille, le réjouit infiniment, aussi bien que la part qu'avait eue à tout cela le duc de Lerme. Lorsque j'eus achevé mon récit, le comte me renvoya en me disant que le lendemain il ne manquerait pas de m'occuper. Je courus aussitôt à l'hôtel de Zuniga pour remercier Don Balthazar de ses bons offices et pour rendre compte à mon ami Joseph de l'entretien que je venais d'avoir avec le premier ministre et de la disposition favorable où son Excellence était pour moi.
Chapitre 5. De l'entretien secret que Gil Blas eut avec Navarro et de la première occupation que le comte d'Olivares lui donna.
D'abord que je vis Joseph, je lui dis avec agitation que j'avais bien des choses à lui apprendre. Il me mena dans un endroit particulier où, l'ayant mis au fait, je lui demandai ce qu'il pensait de ce que je venais de lui dire.
« Je pense, me répondit-il, que vous êtes en train de faire une grosse fortune. Tout vous rit, vous plaisez au premier ministre, et ce qui ne doit pas être compté pour rien, c'est que je puis vous rendre le même service que vous rendit mon oncle Melchior de la Ronda quand vous entrâtes à l'archevêché de Grenade. Il vous épargna la peine d'étudier le prélat et ses principaux officiers en vous découvrant leurs différents caractères. Je veux, à son exemple, vous faire connaître le comte, la comtesse, son épouse, et Donna Maria de Guzman, leur fille unique. Commençons par le ministre. Il a l'esprit vif, pénétrant, et propre à former des grands projets. Il se donne pour un homme universel, parce qu'il a une légère teinture de toutes les sciences. Il se croit capable de décider de tout. Il s'imagine être un profond jurisconsulte, un grand capitaine et un politique des plus raffinés. Avec cela, il est si entêté de ses opinions qu'il les veut toujours suivre, préférablement à celles des autres, de peur de paraître déféré aux lumières de quelqu'un. Entre nous, ce défaut peut avoir d'étranges suites, dont le ciel veuille préserver la monarchie. J'ajoute à cela qu'il brille dans le conseil par une éloquence naturelle, et qu'il écrirait aussi bien qu'il parle, s'il n'affectait pas, pour donner plus de dignité à son style, de le rendre obscur et trop recherché. Il pense singulièrement, et comme je crois vous l'avoir déjà dit, il est capricieux et chimérique. Tel est le portrait de son esprit. Faisons celui de son cœur. Il est généreux et bon ami. On le dit vindicatif, mais quel Espagnol ne l'est pas. De plus, on l'accuse d'ingratitude pour avoir fait exiler le duc d'Uzède et le frère Louis Aliaga, auquel il avait, dit-on, de grandes obligations. C'est ce qu'il faut encore lui pardonner. L'envie d'être premier ministre dispense d'être reconnaissant.
Doña Agnès de Zuniga et Velasco, comtesse d'Olivares, poursuivit Joseph, est une dame à qui je ne connais que le défaut de vendre au poids de l'or les grâces qu'elle fait obtenir. Pour Doña Maria de Guzman, qui sans contredit est aujourd'hui le premier parti d'Espagne, c'est une personne accomplie et l'idole de son père. Réglez-vous là-dessus. Faites bien votre cour à ces deux dames et paraissez encore plus dévouée au comte d'Olivares que vous ne l'étiez au duc de Lerme avant votre voyage de Ségovie.
vous deviendrez par ce moyen un homme comblé d'honneur et de richesse. Je vous conseille encore, ajouta-t-il, de voir de temps en temps Don Balthazar, mon maître. Quoique vous n'ayez plus besoin de lui pour vous avancer, ne laissez pas de le ménager. Vous êtes bien dans son esprit. Conservez son estime et son amitié. Il peut vous servir dans l'occasion.
Comme l'oncle et le neveu, dit Jean Navarro, gouvernent ensemble l'État, n'y aurait-il point un peu de jalousie entre ces deux collègues ?
Non, me répondit-il, ils sont au contraire dans la plus parfaite union. Sans Don Balthazar, le comte d'Olivares ne serait peut-être pas premier ministre, car enfin, après la mort de Philippe III, tous les amis et les partisans de la maison de Sandoval se donnèrent de grands mouvements, les uns en faveur du cardinal et les autres pour son fils. Mais mon maître, le plus délié des courtisans, et le comte, qui n'est guère moins fin que lui, rompirent leurs mesures et en prirent de si justes pour s'assurer cette place qu'ils l'emportèrent sur leurs concurrents. Le comte d'Olivares étant devenu premier ministre, a fait part de son administration à Don Balthazar, son oncle. Il lui a laissé le soin des affaires du dehors et s'est réservé celles du dedans. De sorte que, resserrant par là les nœuds de l'amitié qui doit naturellement lier les personnes d'un même sang, ces deux seigneurs, indépendants l'un de l'autre, vivent dans une intelligence qui me paraît inaltérable. Telle fut la conversation que j'eus avec Joseph, et dont je me promis bien de profiter. Après cela, j'allai remercier le seigneur de Zuniga de ce qu'il avait eu la bonté de faire pour moi. Il me dit fort poliment qu'il saisirait toujours les occasions où il s'agirait de me faire plaisir, et qu'il était bien aise que je fusse satisfait de son neveu, auquel il assura qu'il parlerait encore en ma faveur, voulant du moins, disait-il, me faire voir par là que mes intérêts lui étaient chers, et qu'au lieu d'un protecteur, j'en avais deux. C'est ainsi que Don Balthazar, par amitié pour Navarro, prenait ma fortune à cœur. Dès ce soir-là même, j'abandonnai mon hôtel garni pour aller loger chez le premier ministre, où je soupais avec Scipion dans mon appartement. C'était une chose à voir que notre contenance. Nous y fûmes servis tous deux par des domestiques du logis, qui, pendant le repas, tandis que nous affections une gravité imposante, riaient peut-être en eux-mêmes du respect de commande qu'ils avaient pour nous. Lorsqu'ils se furent retirés après avoir desservi, mon secrétaire, cessant de se contraindre, me dit mille folies que son humeur gaie et ses espérances lui inspirèrent. Pour moi, quoique ravi de la brillante situation où je commençais à me voir, je ne me sentais encore aucune disposition à m'en laisser éblouir. Aussi, m'étant couché, je m'endormis tranquillement, sans livrer mon esprit aux idées agréables dont je pouvais l'occuper. Au lieu que l'ambitieux Scipion prit peu de repos. Il passa plus de la moitié de la nuit à thésauriser pour marier sa fille Séraphine. J'étais à peine habillé le lendemain matin qu'on me vint chercher de la part de Monseigneur. Je fus bientôt auprès de son Excellence qui me dit « Oh, Sar Santillane, voyons un peu ce que tu sais faire. Tu m'as dit que le duc de Lerme te donnait des mémoires à rédiger. J'en ai un que je te destine pour ton coup d'essai. Je vais t'en dire la matière. » Écoute-moi attentivement. Il est question de composer un ouvrage qui prévienne le public en faveur de mon ministère. J'ai déjà fait courir le bruit secrètement que j'ai trouvé les affaires fort dérangées. Il s'agit présentement d'exposer aux yeux de la cour et de la ville le misérable état où la monarchie est réduite. Il faut faire là-dessus un tableau qui frappe le peuple et l'empêche de regretter mon prédécesseur. Après cela, tu vanteras les mesures que j'ai prises pour rendre le règne du roi glorieux, ses états florissants et ses sujets parfaitement heureux. » Après que Monseigneur m'eut parlé de cette sorte, il me mit entre les mains un papier qui contenait les justes sujets qu'on avait de se plaindre de l'administration précédente. Et je me souviens qu'il y avait 10 articles dont le moins important était capable d'alarmer les bons Espagnols. Puis, m'ayant fait passer dans un petit cabinet voisin du sien, il m'y laissa travailler en liberté.
Je commençai donc à composer mon mémoire le mieux qu'il me fut possible. J'exposai d'abord le mauvais état où se trouvait le royaume, les finances dissipées, les revenus royaux engagés à des partisans et la marine ruinée. Je rapportai ensuite les fautes commises par ceux qui avaient gouverné l'État sous le dernier règne et les suites fâcheuses qu'elles pouvaient avoir. Enfin, je peignis la monarchie en péril et censurai si vivement le précédent ministère que la perte du duc de Lerme était, suivant mon mémoire, un grand bonheur pour l'Espagne. Pour dire la vérité, quoique je n'eusse aucun ressentiment contre ce seigneur, je ne fus pas fâché de lui rendre ce bon office. Voilà l'homme. Enfin, après une peinture effrayante des maux qui menaçaient l'Espagne, je rassurai les esprits en faisant, avec art, concevoir au peuple de belles espérances pour l'avenir. Pour cet effet, je faisais parler le comte d'Olivares comme un restaurateur envoyé du ciel pour le salut de la nation. Je promettais monts et merveilles. En un mot, j'entrais si bien dans les vues du nouveau ministre qu'il parut surpris de mon ouvrage lorsqu'il l'eut lu tout entier. « Santillane, me dit-il, je ne t'aurais pas cru capable de composer un pareil mémoire. Sais-tu bien que tu viens de faire un morceau digne d'un secrétaire d'État ? Je ne m'étonne plus si le duc de Lerme exerçait ta plume. Ton style est concis et même élégant, mais je le trouve un peu trop naturel. » En même temps, m'ayant fait remarquer les endroits qui n'étaient pas de son goût, il les changea, et je jugeai par ses corrections qu'il aimait, comme Navarro me l'avait dit, les expressions recherchées et l'obscurité. Néanmoins, quoiqu'il voulût de la noblesse, ou pour mieux dire, du précieux dans la diction, il ne laissa pas de conserver les deux tiers de mon mémoire, et pour me témoigner jusqu'à quel point il en était satisfait, il m'envoya par Don Raymond 300 pistoles à l'issue de mon dîner. Chapitre 6. De l'usage que Gil Blas fit de ces 300 pistoles et des soins dont il chargea Scipion. Succès du mémoire dont on vient de parler. Ce bienfait du ministre fournit à Scipion un nouveau sujet de me féliciter d'être venu à la cour, ce qu'il ne manqua pas de faire. « Vous voyez, me dit-il, que la fortune a de grands desseins sur votre seigneurie. Êtes-vous fâché présentement d'avoir quitté votre solitude ? Vive le comte d'Olivares ! C'est bien un autre patron que son prédécesseur. Le duc de Lerme, quoique vous lui fussiez fort attaché, vous laissa languir plusieurs mois sans vous faire présent d'une pistole. Et le comte vous a déjà fait une gratification que vous n'auriez osé espérer qu'après de longs services. « Je voudrais bien, ajouta-t-il, que les seigneurs de Leyva fussent témoins du bonheur dont vous jouissez, ou du moins qu'ils le sussent. » « Il est temps de les en informer, lui répondis-je, et c'est de quoi j'allais te parler. Je ne doute pas qu'ils n'aient une extrême impatience d'apprendre de mes nouvelles, mais j'attendais pour leur en donner que je me visse dans un état fixe et que je puisse leur demander positivement si je demeurerai ou non à la cour. À présent que je sais bien à quoi m'en tenir, tu peux partir pour Valence quand il te plaira, pour aller instruire ces seigneurs de ma situation présente, que je regarde comme leur ouvrage, puisqu'il est certain que sans eux, je ne me serais jamais déterminé à faire le voyage de Madrid. « Cela étant, s'écria le fils de la Coscolina, Don César et Don Alphonse seront bientôt informés de l'état présent de vos affaires. Que je vais leur causer de joie en leur racontant ce qui vous est arrivé. Que ne suis-je déjà aux portes de Valence ? Mais j'y serai en peu de jours. Les deux chevaux de Don Alphonse sont tout prêts. Je vais me mettre en chemin avec un laquais de mon seigneur. Outre que je serai bien aise d'avoir un compagnon sur la route, vous savez que la livrée d'un premier ministre jette de la poudre aux yeux. » Je ne pus m'empêcher de rire de la sotte vanité de mon secrétaire, et cependant, plus vain peut-être encore que lui, je le laissai faire ce qu'il voulut. « Pars, lui dis-je, et reviens promptement, car j'ai une autre commission à te donner. Je veux t'envoyer aux Asturies, porter de l'argent à ma mère. J'ai par négligence laissé passer le temps auquel j'ai promis de lui faire tenir sans pistole, que tu t'es obligé de lui remettre toi-même en main propre. »
ces sortes de paroles doivent être si sacrées pour un fils que je me reproche mon peu d'exactitude à les garder.
« Vous avez raison, monsieur, » me répondit Scipion, « et je me sais mauvais gré de ne vous en avoir pas fait souvenir. Mais patience, dans 6 semaines ou plus tard, je vous rendrai compte de ces 2 commissions. J'aurai parlé au seigneur de Leyva, fait un tour à votre château et revu la ville d'Oviedo, dont je ne puis me rappeler le souvenir sans donner au diable les 3/4 et demi de ses habitants. »
Je comptais donc au fils de la Coscolina 100 pistoles pour la pension de ma mère, avec 100 autres pour lui, voulant qu'il fît gracieusement le long voyage qu'il allait entreprendre. Quelques jours après son départ, Monseigneur fit imprimer notre mémoire, qui ne fut pas plus tôt rendue publique qu'il devint le sujet de toutes les conversations de Madrid. Le peuple, ami de la nouveauté, fut charmé de cet écrit. L'épuisement des finances, qui était peint avec de vives couleurs, le révolta contre le duc de Lerme. Et si les coups de griffe qui recevait ce ministre ne furent pas applaudis de tout le monde, du moins ils trouvèrent des approbateurs. Quant aux magnifiques promesses que le comte d'Olivares y faisait, et entre autres celle de fournir par une sage économie aux dépenses de l'État sans incommoder les sujets, elles éblouirent les citoyens en général, et les confirmèrent dans la grande opinion qu'ils avaient déjà de ces lumières, si bien que toute la ville retentit de ses louanges. Ce ministre, ravi de se voir parvenu à son but, qui n'avait été dans cet ouvrage que de s'attirer l'affection publique, voulut la mériter véritablement par une action louable et qui fut utile au roi. Pour cet effet, il eut recours à l'invention de l'empereur Galba, c'est-à-dire qu'il fit rendre gorge aux particuliers qui s'étaient enrichis, Dieu sait comment, dans les régies royales. Quand il eut tiré de ses sangsues le sang qu'elles avaient sucé, et qu'il en eut rempli les coffres du roi, il entreprit de l'y conserver, en faisant supprimer toutes les pensions, sans en excepter la sienne, aussi bien que les gratifications qui se faisaient des deniers du prince. Pour réussir dans ce dessein, qu'il ne pouvait exécuter sans changer la face du gouvernement, il me chargea de composer un nouveau mémoire dont il me dit la substance et la forme. Ensuite, il me recommanda de m'élever autant qu'il me serait possible au-dessus de la simplicité ordinaire de mon style, pour donner plus de noblesse à mes phrases. « Cela suffit, monseigneur, lui dis-je. Votre Excellence veut du sublime et du lumineux. Elle en aura. » Je m'enfermai dans le même cabinet où j'avais déjà travaillé, et là je me mis à l'ouvrage, après avoir invoqué le génie éloquent de l'archevêque de Grenade. Je débutai par représenter qu'il fallait garder avec soin tout l'argent qui était dans le trésor royal, et qu'il ne devait être employé qu'au seul besoin de la monarchie, comme étant un fonds sacré, qu'il était à propos de se réserver pour tenir en respect les ennemis de l'Espagne. Ensuite, je faisais voir au monarque, car c'était à lui que s'adressait le mémoire, qu'en ôtant toutes les pensions et les gratifications qui se prenaient sur ses revenus ordinaires, il ne se priverait point pour cela du plaisir de récompenser ceux de ses sujets qui se rendraient dignes de ses grâces, puisque, sans toucher à son trésor, il était en état de leur donner de grandes récompenses. Qu'il avait pour les uns des vice-royautés, des gouvernements, des ordres de chevalerie, des emplois militaires, pour les autres des commanderies ou des pensions dessus, des titres avec des magistratures, et enfin toutes sortes de bénéfices pour les personnes consacrées au culte des autels. Ce mémoire, qui était beaucoup plus long que le premier, m'occupa près de 3 jours. Mais heureusement, je le fis à la fantaisie de mon maître, qui, le trouvant écrit avec emphase et farci de métaphores, m'accabla de louanges. « Je suis bien content de cela, » me dit-il en montrant les endroits les plus enflés. « Voilà des expressions marquées au bon coin. Courage, mon ami, je prévois que tu me seras d'une grande utilité. » Cependant, malgré les applaudissements qu'il me prodigua, il ne laissa pas de retoucher le mémoire. Il y mit beaucoup du sien, et fit une pièce d'éloquence qui charma le roi et toute la cour. La ville y joignit son approbation,
augura bien pour l'avenir et se flatta que la monarchie reprendrait son ancien lustre sous le ministère d'un si grand personnage. Son Excellence, voyant que cet écrit lui faisait beaucoup d'honneur, voulut, pour la part que j'y avais, que j'en recueillisse quelques fruits. Elle me fit donner une pension de 500 écus sur la commanderie de Castille, ce qui me parut une récompense honnête de mon travail, et me fut d'autant plus agréable que ce n'était pas un bien mal acquis, quoique je l'eusse gagné bien aisément. Chapitre 7. Par quel hasard, dans quel endroit et dans quel état Gil Blas retrouva son ami Fabrice et de l'entretien qu'ils eurent ensemble. Rien ne faisait plus de plaisir à Monseigneur que d'apprendre ce qu'on pensait à Madrid de la conduite qu'il tenait dans son ministère. Il me demandait tous les jours ce qu'on disait de lui dans le monde. Il avait même des espions qui, pour son argent, lui rendaient un compte exact de tout ce qui se passait dans la ville. Ils lui rapportaient jusqu'au moindre discours qu'ils avaient entendu. Et comme il leur ordonnait d'être sincères, son amour-propre en souffrait quelquefois, car le peuple a une intempérance de langue qui ne respecte rien. Quand je m'aperçus que le comte aimait qu'on lui fît des rapports, je me mis sur le pied d'aller l'après-dîner dans des lieux publics et de me mêler à la conversation des honnêtes gens quand ils s'y en trouvaient. Lorsqu'ils parlaient du gouvernement, je les écoutais avec attention, et s'ils disaient quelque chose qui mérita d'être redit à son Excellence, je ne manquais pas de lui en faire part. Mais il faut observer que je ne lui rapportais rien qui ne fût à son avantage. Il me semblait que j'en devais user ainsi avec un homme du caractère de ce ministre. Un jour, en revenant de l'un de ces endroits, je passai devant la porte d'un hôpital. Il me prit envie d'y entrer. Je parcourus deux ou trois salles remplies de malades alités, en promenant ma vue de toutes parts. Parmi ces malheureux, que je ne regardais pas sans compassion, j'en remarquai un qui me frappa. Je crus reconnaître en lui Fabrice, mon ancien camarade et mon compatriote. Pour le voir de plus près, je m'approchai de son lit, et ne pouvant douter que ce ne fût le poète Nunez, je demeurai quelques moments à le considérer sans rien dire. De son côté, il me remit aussi et m'envisagea de la même façon. Enfin, rompant le silence, « Mes yeux, lui dis-je, ne me trompe-t-il point? Est-ce en effet Fabrice que je rencontre ici ?»«
C'est lui-même, répondit-il froidement, et tu ne dois pas t'en étonner. Depuis que je t'ai quitté, j'ai toujours fait le métier d'auteur. J'ai composé des romans, des comédies, toutes sortes d'ouvrages d'esprit. J'ai fait mon chemin. » Je suis à l'hôpital. »
Je ne pus m'empêcher de rire de ces paroles, et encore plus de l'air sérieux dont il les avait accompagnées. « Eh quoi ! » m'écriai-je. « Ta muse t'a conduit dans ce lieu ? Elle t'a joué ce vilain tour ?»«
Tu le vois, » répondit-il. « Cette maison sert souvent de retraite aux beaux esprits. »«
Tu as bien fait, mon enfant, » poursuivit-il, « de prendre une autre route que moi. » Mais tu n'es plus, ce me semble, à la cour, et tes affaires ont changé de face. Je me souviens même d'avoir ouï dire que tu étais en prison par ordre du roi.
On t'a dit la vérité, lui répliquai-je. La situation charmante où tu me laissas quand nous nous séparâmes fut, peu de temps après, suivie d'un revers de fortune qui m'enleva mes biens et ma liberté. Cependant, mon ami, post nubila phoebus, tu me revois dans un état plus brillant encore que celui où tu m'as vu.
« Cela n'est pas possible, » dit Nunez. « Ton maintien est sage et modeste. Tu n'as pas l'air vain et insolent que donne ordinairement la prospérité. »
« Les disgrâces, » repris-je, « ont purifié ma vertu, et j'ai appris à l'école de l'adversité à jouir des richesses sans m'en laisser posséder. »
« Dis-moi donc, » interrompit Fabrice en se mettant avec transport sur son séant. « Quel peut être ton emploi? Que fais-tu présentement? Serais-tu intendant d'un grand seigneur ruiné ou de quelque veuve opulente ?»«
J'ai un meilleur poste, » lui répartis-je. « Mais dispense-moi, je te prie de t'en dire davantage à présent. Je satisferai une autre fois ta curiosité. Je me contente en ce moment de t'apprendre que je suis en état de te faire plaisir. »
ou plutôt de te mettre à ton aise pour le reste de tes jours, pourvu que tu me promettes de ne plus composer d'ouvrages d'esprit, soit en vers, soit en prose. Te sens-tu capable de me faire un si grand sacrifice ?»«
Je l'ai déjà fait au ciel, » me dit-il, « dans une maladie mortelle dont tu me vois échapper. Un père de Saint-Dominique m'a fait abjurer la poésie, comme un amusement qui, s'il n'est pas criminel, détourne du moins du but de la sagesse.
« Je t'en félicite, » lui repartis-je, « mon cher Nunez, tu as fort bien fait, mon ami, mais gare à la rechute.
« Oh !» me repartit-il d'un air résolu, « c'est ce que je n'appréhende point du tout. J'ai pris une ferme résolution d'abandonner les muses. Quand tu es entré dans cette salle, je composais des vers pour leur dire un éternel adieu.
« Monsieur Fabrice, lui dis-je alors en branlant la tête, je ne sais si nous devons, le père de Saint-Dominique et moi, nous fier à votre abjuration. Vous me paraissez furieusement épris de ces doctes pucelles.
« Non, non, me répondit-il, j'ai rompu tous les nœuds qui m'attachaient à elle. J'ai plus fait, j'ai pris le public en aversion, et ma haine est juste. Il ne mérite pas qu'il y ait des auteurs qui veuillent lui consacrer leurs travaux. Je serais fâché de faire quelque production qui lui plût.
« Ne crois pas, continua-t-il, que le chagrin me dicte ce langage. Je te parle de sang-froid. Je méprise autant les applaudissements du public que ses sifflets. On ne sait qui gagne ou qui perd avec lui. C'est un capricieux qui pense aujourd'hui d'une façon et qui demain pensera d'une autre. Que les poètes dramatiques sont fous de tirer vanité de leurs pièces quand elles réussissent. Quelque bruit qu'elles fassent dans leur nouveauté sur la scène, elles se soutiennent rarement après l'impression. Et si on les remet au théâtre 20 ans après, elles sont pour la plupart assez mal reçues. La génération présente accuse de mauvais goût celle qui l'a précédée, et ses jugements sont contredits à leur tour par ceux de la génération suivante. C'est ce que j'ai toujours remarqué, et de là je conclus que les auteurs qui sont applaudis présentement doivent s'attendre à être sifflés dans la suite. Il en est de même des romans et des autres livres amusants qu'on met au jour. Quoiqu'ils aient d'abord une approbation générale, ils tombent insensiblement dans le mépris. L'honneur qui nous revient de l'heureux succès d'un ouvrage n'est donc qu'une pure chimère, qu'une illusion de l'esprit, qu'un feu de paille dont la fumée se dissipe bientôt dans les airs. Quoique je jugeasse bien que le poète des Asturies ne parlait ainsi que par mauvaise humeur, je ne fis pas semblant de m'en apercevoir. « Je suis ravi, lui dis-je, que tu sois dégoûté du bel esprit, et radicalement guéri de la rage d'écrire. Tu peux compter que je te ferai donner incessamment un emploi, où tu pourras t'enrichir sans être obligé de faire une grande dépense de génie.
« Tant mieux, s'écria-t-il, l'esprit me pue, et je le regarde à l'heure qu'il est comme le présent le plus funeste que le ciel puisse faire à l'homme.
« Je souhaite, repris-je, mon cher Fabrice, que tu conserves toujours les sentiments où tu es. Si tu persistes à vouloir quitter la poésie, je te le répète, je te ferai obtenir bientôt un poste honnête et lucratif. Mais en attendant que je te rende ce service, ajoutai-je en lui présentant une bourse où il y avait une 60aine de pistoles, je te prie de recevoir cette petite marque d'amitié.
Oh, généreux ami! S'écria le fils du barbier Nunez, transporté de joie et de reconnaissance.
Quelle grâce n'ai-je pas à rendre au ciel de t'avoir fait entrer dans cet hôpital, d'où je vais dès ce jour sortir par ton assistance.
Comme, effectivement, il se fit transporter dans une chambre garnie. Mais avant que de nous séparer, je lui enseignai ma demeure, et l'invitai à me venir voir aussitôt que sa santé serait rétablie. Il fit paraître une extrême surprise lorsque je lui dis que j'étais logé chez le comte d'Olivares.
« Oh, trop heureux Gil Blas, me dit-il, dont le sort est de plaire au ministre, je me réjouis de ton bonheur, puisque tu en fais un si bon usage. »